en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Il n'est certes pas le seul ecclésiastique à compter parmi les membres de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, mais il est sûrement le seul à avoir travaillé plus souvent dans la profondeur des grottes que dans un bureau. Vous l'aurez reconnu, c'est l'abbé Breuil, Henri-Édouard Prosper, abbé Breuil, qui demeure l'une des grandes figures de la préhistoire en France, et on aurait garde d'oublier qu'il fut un savant de renommée international. Et pour évoquer son parcours, ses recherches, ses travaux, j'ai le plaisir de recevoir un historien de la préhistoire, Arnaud Hurel, auteur d'un ouvrage publié au CNRS sur l'histoire de l'organisation des fouilles archéologiques préhistoriques en France, ouvrage qui s'intitule « La France préhistorienne ». Arnaud Hurel, bonjour.
Bonjour.
Vous préparez, vous me dites, une biographie de l'abbé Breuil. C'est encore un scoop, mais tout de même, il n'y avait pas de biographie de lui, véritablement ?
Il n'y a pas de biographie de l'abbé Breuil, aussi étonnant que ça puisse paraître. Il y a un petit livre qui avait été publié chez Segers, dans une collection que vous connaissez sans doute, de petites biographies, des grands hommes, et publié peu d'années après son décès. Donc l'abbé Breuil est décédé en 1961. Il est né en 1877, donc il est mort alors que c'était déjà un vieux monsieur, certes, mais il a surtout eu une carrière scientifique très très importante, puisque son premier article scientifique date de 1897, et donc il a publié énormément d'ouvrages, d'articles entre 1897 et 1961. D'autres ont même été publiés post-mortem, si je puis dire, donc c'est quelqu'un de vraiment avec une belle production scientifique. Et donc le paradoxe, c'est que vraiment personne ne s'est intéressé à l'ensemble de son œuvre, à l'individu lui-même, de la placer en perspective, dans le contexte de l'époque. Et c'est le travail que j'ai entrepris avec un jeune préhistorien, spécialiste de l'art pariétal, Romain Pigeot.
Alors, l'abbé Breuil, c'est un Normand. Il est né dans la Manche, à Mortain, le 28 février 1877, et il est entré au séminaire. Mais, alors, avait-il une véritable vocation ou pas? On ne va pas peut-être répondre à cette question. En tout cas, il n'a jamais exercé de ministère sacerdotal, peut-être alors, même pas de sacerdoce, je ne sais pas exactement.
Il est né par hasard, en Normandie. Il n'est pas normand. C'est un Normand qui vous le dit. Il est né à Mortain du fait d'une affectation provisoire de son père qui était magistrat. Mais toute sa jeunesse est passée dans l'Oise, à Clermont en particulier. La ville de Clermont est tout à fait intéressante dans la mesure où on est en plein dans des gisements du paléolithique. Et donc le hasard a bien fait les choses. Et c'est ce qui lui a permis de rencontrer des gens absolument déterminants comme Dodo Ménil, qui était un préhistorien connu, qui était cousin par alliance, mais qui l'a initié à la préhistoire. Alors, il rentre effectivement au séminaire en 1897. Nous ne pouvons pas
on va pas juger de
prononcer.
Sa vocation.
En revanche, lui s'est prononcé. Il a clairement dit que, puisqu'il était l'objet d'attaques parfois sur cette question, il a clairement dit qu'il avait effectivement une double vocation. Cette double vocation est une vocation évidemment de prêtre, la foi est une vocation de prêtre, et une vocation scientifique. Je ne sais pas quel est le pourcentage à concéder à l'une ou à l'autre, mais il n'y a aucune ambiguïté sur la foi, sur l'engagement de prêtre et le respect de ses engagements dans leur plénitude de la part de l'abbé Breuil. Ça, il n'y a aucun problème. Mais votre question est tout à fait juste dans la mesure où, à l'heure actuelle, on a encore ce type de questions, parce qu'il est parfois, pour certains, un petit peu gênant d'imaginer qu'un prêtre a pu régner quasiment sans partage sur la préhistoire française pendant aussi longtemps.
Comment s'est déclenchée sa vocation pour la préhistoire ?
Alors, c'est d'abord un naturaliste. C'est un enfant qui se passionne absolument pour tout, toute l'histoire naturelle, j'allais dire, toute la création, aurait-il pu dire. Il collectionne des insectes, des plantes, des petits cailloux qu'il ramasse. Et d'ailleurs, sa première publication, c'est sur une plante, dans la feuille du jeune naturaliste. Et c'est la rencontre avec ce cousin, par alliance, qui est Dodo Ménil, qui est un préhistorien, qui a de belles collections, qui va finalement être l'élément déclencheur. Il a 19 ans, il va rentrer au séminaire l'année suivante. Il découvre la préhistoire. Alors, il découvre la préhistoire, il découvre peut-être pas l'épaisseur du temps, l'épaisseur de cette science, les réflexions que ça va imposer, mais il découvre un monde qu'il ne connaissait pas, qu'il ne suspectait pas, cette industrie lithique en particulier, toutes ces pierres
c'est
taillées.
C'est d'abord l'industrie lithique, c'est-à-dire les pierres taillées qu'il découvre.
Oui. Ne serait-ce que parce que en 1897, il n'y a pas d'autre préhistoire, si je puis dire. Il y a la préhistoire du sol et rien d'autre, c'est-à-dire l'industrie lithique, la paléontologie, donc ces espèces animales disparues, mais c'est également l'art mobilier, c'est-à-dire ces bois, ces ivoires qui ont été sculptés par des hommes préhistoriques. Un point, c'est tout. Pourtant, il y a des grottes ornées. Pourtant, on connaît les grottes ornées.
C'était les bouchers de perte qui avaient fait. On connaissait déjà ces collections.
Oui, bien sûr, mais des collections. Vous savez, c'est Marc Bloch qui disait que de tout temps, on a connu la préhistoire. De tout temps, les paysans ont heurté une pierre taillée avec le soc de leur charrue. De tout temps, mais on ne savait pas ce que c'était. Il manquait l'interrogateur, celui qui était capable d'analyser cela comme étant. Et la grande question, d'ailleurs, c'est une question que j'aime bien poser à nos étudiants de master, de quand date la préhistoire? Vous allez trouver que la formule est assez malheureuse, mais quand commence la préhistoire? Est-ce qu'elle commence à partir du moment où on imagine qu'il y a un passé antihistorique? Mais ça peut être Christophe Colomb, 1492, la découverte de l'autre. Ça peut être le XVIIIe siècle, tous ces grands voyages et la découverte de peuplades qui continuent d'utiliser les pierres taillées. Vous voyez, finalement, il faut tout un ensemble de progrès scientifiques, par la géologie, par la paléontologie, pour finalement se poser la question de est-ce qu'il existe une humanité qui finalement serait d'avant le déluge ou qui serait peut-être même d'avant on ne sait quoi si on ne croit pas au déluge.
Alors, notre abbé Breuil, il a 20 ans, il se passionne déjà pour la préhistoire, il suit ses études. Va-t-il faire ses études en France ou à Fribourg?
Alors, il fait toutes ses études en France. Donc, il rentre au séminaire en 1897. Il va faire là-bas deux rencontres absolument déterminantes. Un ami, l'abbé Jean Buissonni, qui est sans aucun doute un préhistorien du même niveau que l'abbé Breuil, mais qui n'a pas laissé la même trace dans l'imaginaire ou dans la connaissance que l'on peut avoir des préhistoriens, qui est un, donc ils ont le même âge, ils sont rentrés ensemble au séminaire, mais lui va faire toute sa carrière comme professeur à l'école Bossuet à Brive, et c'est quelqu'un qui vraiment va avoir un rôle déterminant dans l'analyse de l'industrie lithique, et jusqu'aux années 50, au début des années 60, les grands préhistoriens vont aller le voir pour essayer de valider auprès de lui leur nouvelle théorie d'analyse de l'industrie lithique. Donc c'est un personnage majeur, mais un petit peu oublié. Et puis l'autre personne qu'il va rencontrer, c'est l'abbé Guibert. L'abbé Guibert est un professeur qui deviendra le directeur du séminaire d'Issy des Poulineaux. L'abbé Guibert va lui faire découvrir une autre préhistoire, celle des livres. Il va lui montrer le livre qu'il a écrit, qui est un livre qui s'appelle « Les origines ». Ce n'est pas du concordisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tentative de faire concilier la théologie avec les découvertes scientifiques, mais c'est une approche de la préhistoire par un prêtre. C'est un ouvrage majeur, un ouvrage vraiment très important. Et puis l'abbé Guibert a des collections, lui également. Il va déceler en Breuil un esprit vif et curieux, il va lui faire classer ses collections. Voilà, le virus est là. Et il ne va pas le lâcher.
Ça veut dire que, dès sa jeunesse, l'abbé Breuil était au courant des théories sur l'évolution, sur le darwinisme. Il avait une connaissance de ces théories?
Alors, j'allais dire, tout le monde avait connaissance de ces théories, mais peut-être ne faisait pas l'effort d'aller lire les livres, j'allais dire, interdits par l'Église, et en qui plus est au sein des séminaires. Et l'abbé Guibert va mettre entre les mains de l'abbé Breuil, le diable, puisqu'il va lui mettre entre les mains la collection des matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme, de Gabriel de Mortillet. Et là, le choc est évidemment très fort, parce qu'il y a d'une part l'enseignement un peu figé du séminaire sulpicien, et puis d'autre part la découverte de l'évolutionnisme darwinien, et puis surtout son instrumentalisation par le camp matérialiste, en particulier par Mortillet. Donc il y a un vrai choc qui se produit, et le choc est d'autant plus fort que la crise du modernisme éclate à peu près à la même époque. Et il faut imaginer notre abbé Breuil au séminaire d'ici, puis ensuite Place Saint-Sulpice, dans ce qui était autrefois le séminaire, avec la rue Bonaparte, et de l'autre côté, l'éditeur qui publie les ouvrages de Loisy. Donc il faut imaginer tout ce bouillonnement, et lorsqu'on lit maintenant les papiers intimes de Breuil, on se rend compte qu'il est tout de même plein de questions, un peu tourmenté.
Il a laissé beaucoup de papiers, beaucoup de manuscrits.
C'est absolument considérable. Il faut imaginer que l'abbé Breuil a écrit sa première autobiographie à l'âge de 13 ans.
Bon, ça commence
la
bien.
Première ligne expliquant qu'il écrivait pour l'histoire et que plus tard il serait un grand homme. De fait, il a écrit pour l'histoire et il est devenu un grand homme. Bon, ça dénote un petit trait de caractère assez particulier chez l'individu, mais cette biographie a été écrite, réécrite tout au long de sa vie et parfois.
Il avait tout de même un souci de son image, ça veut dire.
Il avait un souci de son image, oui, Et non, il avait un souci de son image, non pas dans le présent, mais pour la postérité. Mmh. Ça, c'est certain. Puisqu'il a tout gardé. Il gardait tout, toutes les lettres qu'il a pu recevoir, tous les brouillons qu'il a pu rédiger. L'histoire s'est chargée de disperser un petit peu tout cela, ce qui est un obstacle pour l'historien maintenant. Mais on a des masses considérables d'archives.
S'il était évidemment chercheur, fouilleur, on va en parler, mais est-ce qu'il est resté toute sa vie aussi professeur? Je crois que c'était une dimension chez lui.
C'est une dimension très importante, effectivement. Je crois que c'est Claude Allègre qui a dit un jour qu'il ne concevait pas l'enseignement, enfin la recherche sans enseignement. Et c'est vrai, les deux sont absolument inséparables. Il est nécessaire de faire valider, de confronter sa recherche à des questions qui peuvent parfois être désarmantes et voir comment réagissent les étudiants. C'est absolument fondamental pour progresser. Et Breuil est attiré par cela. Le problème, c'est que la France ne reconnaît pas la préhistoire d'un point de vue académique. Il n'y a pas d'enseignement officiel de préhistoire
alors,
en France.
Alors, où enseigne-t-il?
Alors, il y a quelques cours libres en province, mais lui est obligé de va faire une licence de sciences naturelles à la faculté des sciences de Paris. Mais il se pose un problème très concret pour lui. Il faut bien vivre. Il faut vivre, d'autant plus qu'il a négocié la possibilité d'être attaché à un diocèse, à celui de Soissons, sans pour autant être astreint à un ministère dans ce diocèse. Et donc, il faut bien subvenir à ses besoins. Donc, il va d'une part faire beaucoup de dessins pour d'autres préhistoriens, des gens comme Édouard Piet, qui vont le rémunérer pour faire des dessins.
Très grand dessinateur. Alors là, c'est très important. Parce
oui, ça lui sera d'ailleurs reproché en matière d'art pariétal.
Mais on en reparlera
certainement. Il va donc essayer de gagner sa vie comme ça. Et puis, il fait une rencontre avec déterminante, là également, qui est Jean Brune, le géographe, qui est en train de monter une institution dédiée aux missions à Fribourg. Et il va comprendre la situation de l'abbé Breuil et va essayer de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une chaire d'ethnographie préhistorique. Et Breuil va candidater sur cette chaire avec le soutien d'un professeur du Muséum national d'histoire naturelle qui est Marcelin Boule. Donc à partir de 1905, l'abbé Breuil a une position officielle, certes à l'étranger, certes dans une université catholique, mais il a une position officielle qui lui permet de vivre et de mettre en avant son titre de professeur à l'université de Fribourg.
Et alors après, donc, mais un petit peu plus tard, en 1900, je crois, 1929, on va créer pour lui une chaire de professeur de préhistoire au Collège de France. Alors, c'est tout de même un cheminement prestigieux.
C'est un cheminement tout à fait prestigieux, oui. Il y a peut-être une étape qui mériterait d'être signalée, qui est l'étape de 1910, avec la création de la Fondation Institut de Paléontologie Humaine, avec trois chaires d'enseignement, dont une qui va être dédiée à l'ethnographie préhistorique. Enfin, c'est un mot un peu barbare maintenant pour les préhistoriens, mais c'est en gros étudier le mode de vie, les comportements culturels, voire cultuels des hommes préhistoriques. Et donc cette chaire est créée spécialement pour lui, mais c'est un établissement privé, là encore. C'est en France, à Paris, mais c'est un établissement privé. 1929, évidemment, c'est la grande date, c'est le moment où le Collège de France crée une chaire pour lui, de préhistoire, et il est nommé dans cette chaire. C'est une reconnaissance, mais c'est toute l'ambiguïté, malgré tout, du Collège de France. Le Collège de France crée des chaires qui sont directement liées à un individu. Et de fait, la chaire disparaîtra lorsque Breuil prendra sa retraite en 1947. C'est d'une part ça. Et puis d'autre part, je crois que Langlois disait que le Collège de France, c'est là où la science se fait, et la Sorbonne, c'est là où on l'enseigne. Donc, ça prouve tout de même bien qu'il y a une petite différence. On est encore un peu marginal.
Il n'y avait pas d'enseignement de la préhistoire en Sorbonne? Ou à l'université française?
Alors, il y a eu quelques enseignements dans l'Institut d'ethnologie qui a été créé dans les années 1925 par Lévi Brulle, avec Mauss également, qui était là-bas. Donc, il y avait un petit certificat qui est devenu un petit certificat de licence qui était consacré à la préhistoire. Donc, c'était d'abord de la préhistoire indochinoise. Puis ensuite, des cours de préhistoire qui ont été confiés à l'abbé Breuil. Et le père Teilhard de Chardin lui-même, ensuite, a donné quelques petits cours lors de ses nombreux passages à Paris. Dans ce cadre-là. Mais vous voyez, ça reste malgré tout accessoire. C'est un petit certificat qui compte, certes, pour la licence, mais qui n'est pas obligatoire.
L'abbé Breuil appartenait à de très nombreuses sociétés savantes, françaises et étrangères, anglaises, espagnoles, écossaises, belges, et à de très nombreuses académies. Il était docteur honoris causa des universités de Cambridge, Oxford, Édimbourg, Cape Town, Lisbonne. Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi des endroits où il a fait ses recherches et ses fouilles. Parce qu'on dit qu'il a passé plus d'heures, en effet, dans les grottes qu'à l'air libre. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai?
C'est ce qu'il aimait à dire, voilà, ça, c'est, oui. C'est certain. Mais de fait, oui. On a une image de l'abbé Breuil, d'un vieux monsieur un peu rond, très rond même, mais il faut imaginer un jeune Abbé Breuil très maigre. Et ce détail compte énormément, puisque au Combarel, par exemple, qui est une retournée absolument importante, ou même dans la Grotte des Trois Frères, la découverte va se faire parce qu'on a ce petit bonhomme, en particulier au Combarel, qui va réussir à se faufiler
dans les boyaux.
D'ailleurs, il racontera plus tard qu'il a failli rester coincé et qu'il a fallu le sortir de là en le tirant par le pied. Mais voilà, c'est un aventurier, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup cette ambiance particulière des grottes et qui va y passer des journées entières, des nuits entières.
Arnaud Hurel, on vous retrouve dans un court instant. On va continuer à parler des grottes ornées et des découvertes de l'abbé Breuil.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de Mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de Mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
L'abbé Breuil, alors, il découvre beaucoup de ces grottes, non seulement en France, mais aussi en Espagne. Alors, parlons d'abord de celles de France. Quelles sont les grottes où il a particulièrement travaillé?
Je crois qu'il faut replacer cela dans un cadre particulier, qui est celui que j'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, qui est celui de la reconnaissance de l'art pariétal. Pour nous, maintenant, Altamira, Lascaux, qui sont des sites majeurs du paléolithique supérieur, ça ne pose aucun problème. On imagine très bien un homme préhistorique, quel qu'il soit, ayant gravé ou peint ces sites. En revanche, jusqu'en 1902, l'art pariétal n'est pas reconnu. On n'admet pas qu'un homme préhistorique puisse avoir réalisé ces œuvres qui, qu'on soit spécialiste ou non, provoquent chez le visiteur, et c'est le cas à l'heure actuelle, un choc esthétique et plein d'interrogations, y compris ontologiques. Mais jusqu'en 1902, ce n'est pas le cas. On reconnaît l'art mobilier, et donc ces petites pièces qui ont été gravées, et puis on imagine que ce qu'on appelle l'art ludique, on imagine notre homme préhistorique en train de graver le soir au coin du feu pour se détendre, prendre un morceau d'ivoire, et puis gravant dessus un animal. Voilà, c'est comme ça que l'on l'imagine. Et puis il y a ces grottes ornées qui posent problème quand même, parce qu'elles sont, comme je disais, belles, enfin ça ne veut rien dire belles, mais qui provoquent un choc. Et donc, on a du mal à imaginer un être frustre capable de réaliser de telles merveilles. Et donc, il va falloir apporter les preuves comme quoi ces grottes sont anciennes. Et ça, c'est un apport important de l'abbé Breuil qui va réussir à trouver grâce à l'archéologie, c'est-à-dire grâce aux objets qui vont être exhumés dans une grotte en faisant des fouilles, va pouvoir dater, va apporter la preuve que finalement, ces éléments, ces peintures sont vraiment anciennes. Alors, 1902, on va finalement, c'est une petite grotte du Périgord qui s'appelle la Moutte, qui va servir d'étalon, si je puis dire. C'est en découvrant une petite lampe qui servait à éclairer, qui servait à l'artiste pour pouvoir réaliser ses fresques, que l'on va être obligé d'admettre que l'art pariétal peut exister. Et donc, en 1902, c'est une année absolument déterminante pour l'art pariétal, mais c'est une année déterminante pour Breuil, puisque Breuil est connu à la fois pour son travail sur l'industrie lithique, mais également dans l'art pariétal. 1902, il part en Espagne, il va à Altamira, un site connu depuis très longtemps, mais que les préhistoriens français ont dédaigné, voire ont accusé d'être une escroquerie, une supercherie. Quelqu'un comme Émile Cartaillac, qui est un grand scientifique et un grand érudit toulousain, enfin marseillais d'origine, mais installé à Toulouse, expliquera plus tard qu'on lui disait « Méfiez-vous des cléricaux espagnols, n'allez pas là-bas valider cette grotte ». Et finalement, les preuves s'accumulant, Cartaillac va accompagner Breuil en Espagne, ils vont aller à Altamira. Et là, ils étaient partis avec une petite subvention de l'Académie des inscriptions, et obtenue par Salomon Reynac. Ils étaient partis pour 2-3 jours, et puis ils vont rester plusieurs semaines. Et Breuil va aider de son talent de dessinateur, va relever le plus grand nombre possible de fresques, va revenir les bras chargés de relever, va les retravailler, les mettre au propre. Certains diront que son talent l'a aidé à rehausser les couleurs, à raviver un petit peu tout ce bestiaire. il va séduire un mécène qui sera Albert Ier de Monaco, qui va payer une grande monographie, l'impression d'une énorme monographie qui va vraiment impressionner l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, alors, Breuil est lancé.
Arnaud Hurel, vous avez, je suppose, vu les dessins du père Breuil. Quelle émotion on ressent quand on voit tous ces relevés, toutes les grottes dont il a dessiné, tous ces animaux, etc.
Quelle émotion ? C'est une question difficile que vous me posez, dans la mesure où je ne suis pas préhistorien et j'ai tendance à regarder ces relevés de la même façon qu'une lettre. Voilà, d'abord essayer de savoir ce qu'on appelle critique externe. Est-ce que vraiment l'abbé Breuil est celui qui a réalisé ce relevé? Ce n'est pas toujours le cas. Non, l'émotion, en fait, on l'a sur un relevé, même le plus banal, lorsqu'on va trouver ces traces d'argile qui sont dessus, qui sont là depuis quasiment un siècle. Et on imagine l'abbé coincé dans un petit coin d'une grotte, dans une position particulièrement inconfortable, en train d'essayer de relever un petit détail sur un bison ou un mammouth, par exemple. Et donc, là, on est un petit peu avec lui. On va retrouver également une trace, parce que c'est quelqu'un qui fumait beaucoup, une brûlure, une trace de brûlure de son mégot de cigarette sur un relevé. Là, l'émotion est là, parce qu'on touche à l'individu. Bon, plus que, hélas, au site lui-même. C'est une autre dimension, c'est un autre rapport.
Arnaud Hurel, vous avez cité la grotte des Combarelles, celle des Trois Frères. On pourrait parler de celle de Rouffignac. Mais tout de même, dites-nous un mot de Lascaux. Est-ce que l'abbé Breuil a joué un grand rôle ?
Combarelles, Font de Gaume, ce sont deux sites très importants qui vont vraiment acter la reconnaissance de l'art pariétal. On est toujours dans ces années 1902-1904. Et Lascaux et Rouffignac, ce sont en fait deux choses difficiles à qualifier dans la carrière de l'abbé Breuil. Lascaux, d'une part, parce que l'abbé Breuil, on est là dans le contexte particulier de la défaite de la France. On est en septembre 1940, donc le pays est déjà divisé, les préhistoriens, les scientifiques ne sont plus là pour X ou Y raison, mais Breuil va aller sur place très rapidement, va aller regarder cette grotte, il y a tout de suite, il comprend que c'est au moins équivalent à Altamira, qu'il y a énormément de choses à faire. En même temps, il ne va pas y passer beaucoup de temps. Il a un ami, un jeune ami qui s'appelle Maurice Taon, qui va aller sur place, il va faire des relevés. Bon, et puis l'abbé Breuil est sans doute plus âgé, il a d'autres préoccupations. Et donc, c'est assez paradoxal, parce que c'est tout de même un site incroyable, hein, en quantité et en volume. Finalement, la guerre va passer, il partira très tôt au Portugal, puis en Afrique du Sud, il rentrera en 46-47. Donc, d'ailleurs, Lascaux, il y a eu très peu d'exploitations scientifiques de Lascaux. L'abbé Glory, dans les années 60, aura le droit d'y passer quelques mois, il sera éjecté manu militari de la grotte, jamais aucune fouille ne sera menée sur place. Et on en est seulement à publier, mes amis Brigitte et Gilles Deluc vont publier cette année deux ouvrages importants sur Lascaux, dont un manuscrit inédit de l'abbé Glory. Donc vous voyez, l'étude de Lascaux, on parle beaucoup de sa conservation tout de suite, mais l'étude a-t-elle déjà eu lieu ? Non, on est en train de la faire.
Chic, il reste encore des choses à découvrir.
Quant à Rouffignac, alors Rouffignac, c'est l'une des dernières grandes controverses de l'art pariétal. Donc on est dans les années 56, Louis-René Nougier fait connaître cette grotte, l'abbé Breuil va y aller, va authentifier tout de suite le site, mais il y a un grand débat parce que cette grotte a été occupée jusqu'aux années 50, par les habitants du coin, les guerres de religion, la Seconde Guerre mondiale ont été l'occasion de se réfugier dans ces grottes. Les spéléologues, depuis des années, s'y font photographier autour d'un feu de camp dans la grotte, sans se rendre compte, d'ailleurs, on constatera plus tard que sur certaines photographies, on va reconnaître un certain nombre d'animaux au-dessus de leur tête qu'eux-mêmes n'ont pas vu. Mais bon, voilà, et il y a un grand débat, puisque tout le monde dit, bon, on la connaît, il n'est pas possible qu'il y ait eu ce type de dessin dans cette grotte. Alors on prête à l'abbé Breuil une anecdote, une petite remarque lors d'une présentation au Musée de l'Homme, je crois, donc en 1956, Louis-René Nougier essaie de présenter sa grotte, la découverte, la contestation est vive dans la salle, et puis finalement, on dit que l'abbé Breuil se serait levé et aurait dit, bon, deux choses l'une, soit cette grotte est fausse, soit elle est vraie, si elle est vraie, qui pouvait le faire, soit un homme préhistorique, soit moi, comme ce n'est pas moi, c'est donc un homme préhistorique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça correspond tellement au personnage.
Vous avez dit qu'il avait effectivement été en Espagne, au Portugal, mais il est allé aussi en Europe centrale, en Hongrie, en Bohême, en Moravie et aussi en Afrique. Alors, quels sont les grands sites ?
Et en Chine.
Et en Chine, mais oui, bien sûr. Quels sont les grands sites en Afrique ? Afrique du Sud ou Afrique du Nord ?
Alors, il va aller un petit peu en Afrique du Nord, oui, mais il ne fera pas vraiment de fouilles. Il fera une petite étude avec quelques préhistoriens locaux. Il ira également en Afrique de l'Est, puisqu'il ira avec emmené par Henri de Montfred, il ira découvrir la grotte du Porc-Épic, qui sera exploitée, qui avait été déjà un petit peu étudiée par le père Teilhard de Chardin et que l'on étudie toujours à l'heure actuelle. Il ira en Afrique du Sud. Alors, il fera plusieurs voyages en Afrique du Sud. Le premier date des années 1929. Les suivants, en fait, le principal séjour sera pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il ne rentrera que parce que le Collège de France lui demandera absolument de rentrer, parce qu'il faut solder ses droits à pension. Mais il passera beaucoup de temps là-bas. Et puis, il va s'intéresser là également aux industries lithiques sur place, qui sont des industries tout de même très différentes, pour lesquelles il va falloir mener toute une... comment dire, une analyse pour les dater, les vraiment savoir ce à quoi on a affaire. Et puis, il va s'intéresser à l'art pariétal. Donc, il y a la fameuse dame blanche de Brandenburg à laquelle il va s'intéresser, qui n'est peut-être pas une dame et qui n'est pas blanche du tout, mais qui va rester sous ce vocable parce que l'abbé Breuil l'a voulu. Et la Chine, c'est un endroit très important parce que le père Teilhard de Chardin y est à partir des années 1924, il restera jusqu'en 1946. Et à la fin des années 20, au début des années 30, on va faire une découverte majeure à côté de Pékin à Chukoutienne. On va découvrir le synanthrope. Le débat va être là également très vif entre ceux qui considèrent que tous ces objets manufacturés que l'on trouve sur place, toute cette industrie lithique, n'a pas pu être réalisée par un homme avec une conformation physique aussi bestiale. Et Breuil va aller là-bas. Et puis, fort de son autorité...
En 24 aussi, ou un peu plus tard?
Un peu plus tard, il va y aller au début des années 30. Et fort de son autorité, avec toutes ses certitudes, va aller sur place, va regarder, va jeter un rapide coup d'œil sur l'industrie, va prendre lui-même 2-3 pierres, va montrer comment le synanthrope a pu lui-même tailler ses pierres, va dire, bon, il n'y a aucun souci, le synanthrope est bien celui qui a réalisé ses pierres. Alors, c'est un peu... ma façon de présenter peut sembler abrupte, mais ça s'est de fait passé comme cela. Et évidemment, ses collègues préhistoriens en France l'ont assez mal vécu en disant quel est cet individu qui se permet d'aller en Chine, de trancher du jour au lendemain la question, puisque des préhistoriens en France disaient nous avons le synanthrope, nous avons le gibier, maintenant trouvons le chasseur, c'est-à-dire cet homme moderne qui a pu peut-être se nourrir de ce synanthrope et surtout réaliser ces formidables outils. Voilà.
Justement, c'est une question que j'aimerais vous poser, Arnaud Hurel. Est-ce que ça a été gênant, à un moment donné, que ce soit un ecclésiastique qui ait, au fond, la parole sur la préhistoire? Est-ce que les années de conflit entre l'Église et l'État, vous l'avez dit, ne sont pas bien anciennes? Dans les années 20, elles sont même toutes récentes et même elles durent encore. Est-ce que ça a été gênant que ce soit justement un ecclésiastique? Et d'ailleurs, il n'était pas le seul ecclésiastique préhistorien.
Effectivement, il y avait énormément de prêtres, ne serait-ce que parce qu'à une époque, au XIXe siècle, l'Église concevait tout à fait bien que la recherche sur les origines de l'homme soit menée de manière très active par les fouilles. C'est l'époque du concordisme. On essaie de trouver dans le sol la réalité au sens littéral de la lecture de la Genèse. Mais Breuil, le problème entre Breuil et la religion et la science est de deux ordres en ce qui concerne Breuil. Il y a de fait les attaques qui sont portées contre lui, mais qui ne sont pas uniquement des attaques sur le prêtre. Ce sont des attaques également scientifiques, parce que lui se place toujours en rupture par rapport au paradigme dominant, que ce soit pour l'industrie lithique ou l'art pariétal. Et l'autre aspect, c'est Breuil et le problème de la science au sein de l'Église catholique, ce qui est encore autre chose, c'est-à-dire comment l'Église elle-même accepte ou non de parler d'évolution et d'avoir un certain nombre de prêtres qui sont des militants actifs de l'évolution.
L'abbé Breuil a été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 13 mai 1938, au fauteuil précédemment occupé par Ferdinand Bruneau, qui était un linguiste, un grammairien, un pédagogue et un professeur de langue française dans les années 20 et 30. Et l'abbé Breuil est mort à côté de Paris, à l'Isle-Adam, le 14 août 1961. Il avait donc 84 ans. Arnaud Hurel, nous attendons avec impatience la biographie que vous allez rédiger de ce personnage absolument extraordinaire, vraiment un abbé hors du commun.
Tout à fait, vraiment hors du commun.
Merci beaucoup. Je signale que vous avez publié donc un livre qui s'intitule « La France préhistorienne de 1789 à 1941 » au CNRS Éditions, qu'on peut trouver dans la médiathèque de Canal Académie une émission sur ce livre, qu'on en trouvera aussi une émission sur l'Institut de paléontologie humaine et bien sûr des émissions avec les préhistoriens actuels les plus éminents, M. de Lumley, M. Coppens et M. Taquet. Merci Arnaud Hurel.
Merci.